Drôlement, si vous êtes sur les routes en ce moment, c'est là, on dirait que ça s'intensifie un peu, dépendamment des bouts, là. Capitale, direction Est, entre Henri IV et Laurentienne, c'est pas mal installé. Direction Ouest, à la hauteur de Laurentienne, c'est au rouge. Et la 20, direction Ouest, c'est entre la route du président Kennedy et Taniata. Route de Fossambeau, on sent quelques ralentissements aussi entre des Érables et de la Jacques-Cartier. Pour le reste, ça va, évidemment, s'il y a autre chose, 418-971-1021. Il y a toujours ces moments-là où on attend d'accumuler un peu, je dirais, l'actualité géopolitique pour avoir assez de stock pour prendre le temps de jaser avec l'ami Éric Sauvé. Éric Sauvé, qui est président d'Innovigo, firme de consultation en renseignement, sécurité et défense. Et à l'approche des élections américaines de mi-mandat, tiens, je vais dire, Donald Trump cherche à se présenter comme un président dans l'action. Hein. On entend beaucoup parler de lui, mettons, là, dans les dernières heures, les derniers temps, autant sur le plan militaire que sur le plan économique, que sur le plan politique. On dirait qu'il essaie de trouver des responsables, il essaie de faire jaser. Et on va parler de trois dossiers qui ont un lien, veux-veux pas, avec tout ça, à commencer par l'Iran. C'est une 10e nuit consécutive de frappe. Éric, est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends?
Je t'entends très bien, toi?
Génial, oui, je t'entends super bien. On te dérange en camping, là?
Là, je suis en camping en Ontario. Là. moi, je demeure à Gatineau, fait que on a roulé 5 heures vers l'ouest pour aller à Wasaga Beach.
Oh, c'est
la plus grosse plage d'eau douce au monde, en passant.
Oh, écoute, ben, je vais te remercier d'être sorti de ton camping et de tes mini-vacances pour nous jaser géopolitique. Ça veut dire que tu es vraiment passionné, là.
Ouais, j'aime ça beaucoup.
Je préfère Sobol Beach de mon côté, par exemple. Wasaga Beach est bien, mais es-tu déjà allé à Sobol Beach?
Non, écoute, c'est pas un coin que je connais beaucoup. En fait, j'ai plus fait le sud de l'Ontario. Là, je suis comme pas loin des feux de forêt en ce moment-là.
Mais mets ça sur ta liste, Sobol Beach.
Ça sera pour une prochaine.
On fait un road trip, fait qu'on est juste, on vient juste de commencer. Là.
Bon, hey, les États-Unis qui en sont maintenant à une 10e nuit consécutive de frappe contre l'Iran, est-ce qu'on assiste, Éric, à une intensification de la guerre en ce moment? Oh, après, on l'a perdu sur la plage.
Ben.
Il va s'en vouloir. Bon.
Il va nous rappeler.
Je vais redonner. En fait, c'est moi qui dois l'appeler. Je vais redonner.
Mais je peux vous parler de la magnifique municipalité de Sobol Beach, ben où oui. J'allais souvent passer une partie de l'été quand j'étais jeune avec mes parents. C'est sur le bord du lac Huron. C'est près de Wasaga Beach, mais c'est dans le temps où Wasaga Beach, justement, était rendu tellement populaire que c'était crotté. Ouais. Fait que Sobol Beach, c'est comme l'alternative où là, je pense que Sobol Beach est quasiment devenu nul Wasaga Beach, fait que ça doit pas être tant mieux.
Faut toujours trouver la nouvelle plage pas trop
c'est
connue.
C'est ça. Puis dans ce temps-là, Sobol Beach est malade. Bref.
Écoute,
la boîte
je
vocale.
Pense que, ouais, je
m'en dis Wasaga Beach.
En... Colin. Beau petit débat de petites secondes, là. On va essayer de le rappeler en direct, puis sinon, ben regarde, on se fera une pause, on réglera ça plus tard. Là.
Ou on pourra parler, là, j'ai une petite nouvelle dans ma poche arrière, là, si on a quelques minutes. On pourra faire ça en attendant Sobol Beach.
Je ne suis jamais allée ni à la baie Georgienne, ni vraiment en vacances en Ontario. Puis l'autre que je voudrais faire, c'est la baie de Fundy. Okay. Je trouve ça loin.
Ah, mais ça, c'est extraordinaire.
Mes bagues, c'est extraordinaire.
Oui,
oh! Éric, t'es là!
J'ai réalisé que je parlais tout seul, j'étais parti pendant au moins
deux ans. Oh, c'est drôle! OK! On essaie de te rappeler à quelques reprises, on s'est dit les vacances l'ont emporté, finalement, ça ne fonctionne pas.
Non, je parlais tout seul dans ma voiture.
Ah, le pauvre! Et je te repose la question, OK, parce qu'on a vraiment tout manqué. Donc, ce que je disais, c'est que les États-Unis sont à une 10e nuit consécutive de frappe, puis je te demandais, est-ce qu'on assiste à une véritable intensification de la guerre?
Oui, bien, comme je disais, ça s'est intensifié beaucoup parce que il y avait eu un protocole d'entente en juin. Un début de négociation devait négocier pendant 60 jours. Et puis, quelques jours après, les Iraniens ont frappé dans le détroit d'Ormuz des navires. Il y a eu une riposte américaine. Mais là, ce qui a changé la donne, ce que je racontais à personne dans mon auto, c'est que il y a 3 Américains qui sont décédés, 2 qui ont été frappés par l'Iran. Et un qui est en train de faire sauter au sol un drone iranien qui était tombé. Alors, moi, ce que je vois, c'est une logique de vengeance de la part de Trump et de son secrétaire à la guerre de frapper fort pour faire payer le prix des pertes américaines.
C'est ça l'objectif, dans le fond?
Bien, c'est ça le problème, c'est que l'objectif devrait être de mettre une fin à ça, soit de faire tomber le régime iranien, soit de les forcer à des concessions, soit d'avoir une négociation pour le détroit d'Ormuz. mais on est dans une logique de œil pour œil, dent pour dent. Tu me frappes, je te frappe plus fort, sans vraiment avoir une sortie de crise. Et puis, ben, on parlait au début d'émission des élections de mi-mandat. La stratégie iranienne, c'est d'étirer ça le plus possible pour faire mal à Donald Trump, pour que le Congrès soit peut-être moins favorable à la guerre en novembre. Mmh. Parce que Donald Trump a des comptes à rendre au Congrès. Ça fait plus que 100 jours que cette guerre-là a lieu. Il a beau parler d'une opération spéciale, on est encore en 10 jours de frappe. Ça fait plus que 4 mois. À un moment donné, le Congrès, s'il est contrôlé par les démocrates, va commencer à se mettre le nez là-dedans et peut-être ralentir les ardeurs du président.
Mais là, on va-tu s'en sortir un moment donné, Éric?
Ça va être difficile d'avoir une sortie de crise autre que négocier. Négocier à une table des négociations avec le Qatar, le Pakistan. Le problème du côté iranien, c'est qu'on ne sait plus qui parle pour le gouvernement. Mm. L'ayatollah Khamenei, fils, n'a pas été vu depuis le 28 février, même avant, depuis la frappe qui a tué son père, son épouse et son fils. On pense qu'il est en vie, mais il s'exprime par communiqué. Les gardiens de la Révolution ont le haut du pavé et certains négociateurs pour le gouvernement iranien ne sont pas respectés par leur propre gouvernement. Donc, c'est difficile aussi pour Washington de savoir avec qui négocier et comment leur faire confiance aussi.
Deuxième dossier qu'on veut traiter avec toi, on est toujours évidemment dans les mêmes sujets, les nouveaux tarifs contre le Canada. Donc Trump, encore une fois, qui essaie de bien paraître. Mais pourquoi des nouveaux tarifs? Est-ce que c'est vraiment une question commerciale?
Bien, je te dirais qu'il y a la question des feux de forêt qui n'a pas aidé récemment. Puis je sais qu'on
on va en parler.
On va en parler après. On va en parler après. Mais l'accord de libre-échange, l'ACEUM, l'accord Canada-États-Unis-Mexique, devait être renouvelée avant le 1er juillet. Ça n'a pas eu lieu. Elle est quand même en vigueur, mais les négociations se poursuivent. Et comme tu as mentionné d'entrée de jeu, Trump peut montrer qu'il prend les choses en main. C'est déjà plein du Canada, du Groenland, du Danemark. En ce moment, une des façons de mettre son pouvoir en place, c'est de dire que le Canada va payer des tarifs de 50 %, ce qui est énorme. Mais les tarifs, on le sait, sont payés par les Américains. C'est des droits de douane pour dédouaner du produit canadien. Mais je lisais quand même, autant qu'on déteste qu'est-ce que Trump fait, qu'il y a une étude de KPMG, la grosse firme de consultation, qui disait que 4 compagnies sur 10 dans le secteur manufacturier déménageaient aux États-Unis ou pensaient déménager aux États-Unis.
Oh, ouais.
Donc, forcé d'admettre que sa stratégie à long terme d'écraser l'économie canadienne, force des dirigeants qui ne sont pas nécessairement pro-américains, mais qui veulent garder leur business en vie, de dire peut-être que je pourrais déménager de l'autre côté de la frontière.
Mais ça nuit aux Américains aussi, non?
Ben, écoute, ils sont en train de développer leur secteur manufacturier, mais le secteur manufacturier, c'est pas le secteur le plus en vogue. Je veux dire, ça fait longtemps que la Chine est le secteur manufacturier du monde entier. Les Américains devraient se concentrer sur les technologies de pointe comme l'intelligence artificielle, la physique quantique, etc. Essayer de ramener des emplois à faible taux de rémunération, c'est peut-être pas la stratégie gagnante à long terme pour l'Amérique, pour les Américains.
Tu as nommé, Éric, les feux de forêt, la fumée des feux de forêt, la responsabilité de l'Ontario. Là, Donald Trump accuse le Canada de laisser la fumée de ses incendies traverser la frontière. Tout le monde sait qu'on a un contrôle vraiment, vraiment là-dessus,
ben oui,
précis. Là. fait qu'on peut pas réellement se tenir responsable de ça, là.
C'est assez incroyable parce qu'il y avait des républicains gouverneurs et prétendants gouverneurs qui avaient commencé à sortir des messages sur les réseaux sociaux. Il y en a même un qui avait juste été jusqu'à dire avertissement final aux Canadiens, on ne tolérera plus ça. Comme si on pouvait contrôler et la fumée et le vent. Mais comme j'ai mentionné, je viens de traverser une partie de l'Ontario. Le nord, quand on passe au nord de Toronto, c'est juste ça, des forêts. Hein? Il y en a à perte de vue. Il y a beaucoup de feux de forêt, il y en a beaucoup aux États-Unis aussi. Mais là, ça donne que le vent pousse vers le sud. De commencer à blâmer le Canada pour une mauvaise gestion de forêt, c'est non seulement ridicule, mais c'est aussi frustrant, sachant que quand il y a eu des énormes feux de forêt en Californie, qu'on a envoyé des pompiers, des combattants pour les aider, puis qu'il y a eu la première des choses, c'est plutôt que de dire on pourrait envoyer des équipes du nord des États-Unis vous aider, c'est de nous blâmer, puis la logique des tarifs qu'on parlait tout à l'heure s'inscrit un peu dans la même veine. Pour l'Américain moyen, c'est une façon de punir le Canada. Parce qu'en ce moment, notre fumée descendrait jusqu'à New York et, ouais. et ainsi de suite.
Puis en même temps, ça lui permet de continuer de marteler que le Canada n'est pas capable de gérer. Ça vient un peu justifier les velléités annexionnistes des fois du 51e État puis de tous ces discours-là.
Surtout que Trump aura dit ce matin que le Canada ne pouvait pas survivre sans les États-Unis.
Ben oui, ça le sert. Moi, je me demande, c'est quoi l'état de l'opposition aux États-Unis en ce moment? Quand Donald Trump dit une affaire comme ça, là, on va mettre des tarifs parce que les Canadiens nous envoient leur fumée. Est-ce qu'il y en a une opposition? Est-ce que ça fait réagir? Ou les Américains, ils pensent même pas au Canada puis ils s'en fichent un peu?
Je pense que tu as mis le doigt sur le bobo, c'est que le système américain est fait de contre-pouvoirs, en anglais de checks and balances, c'est-à-dire que le contre-pouvoir du président, c'est le Congrès, donc le Sénat, la Chambre des représentants. Quand le président, son parti contrôle la Chambre des représentants, le Sénat, ça va très, très bien. Mais il y a quand même moins de discipline de parti qu'au Canada. Au Canada, un libéral, peu importe où il est, doit dire comme son chef. Aux États-Unis, un représentant républicain d'un État ou du Sénat peut se positionner contre le président s'il n'est pas d'accord. Mais là, on ne voit aucunement ça. C'est l'aplavantrisme total du Congrès. Lui qui vient de décéder, Lindsey Graham, c'est quelqu'un qui avait dit que Trump, ce serait la pire chose pour les États-Unis. Quand il y a eu le 6 janvier, les émeutes, il a dit « c'est fini, on ne le supporte plus ». Et c'était un des plus fervents supporters de Donald Trump. Fait qu'on a affaire à des gens comme ça qui n'ont aucun scrupule, aucun principe, qui pensent seulement être réélus. Ils savent très bien, les Républicains, que quand ils s'opposent à Trump, Trump étant populaire dans la base républicaine, ils ne seront pas réélus. Donc, ils vont, dans le fond, avaliser tout ce que Trump dit et fait.
C'est pareil.
Il n'y a plus aucun contre-pouvoir.
Ouais. Ça marche un peu, sa stratégie.
Bien, ça marche parce que le Parti républicain s'est rendu le Parti Trump. Par contre, au niveau fédéral, au niveau des États, au niveau complètement plus haut, il est quand même au taux d'approbation le plus bas des présidents modernes, c'est-à-dire qu'il est autour de 35 %. Il y a une personne sur trois qui le supporte, ou il y en a deux sur trois qui ne le supportent pas du tout quand on parle de toutes les gens.
Et pourtant, il a été réélu.
Oui, je sais. Ça,
c'est ce que je trouve fascinant.
C'est une anomalie, c'est dur à comprendre. Je pense qu'on va se pencher là-dessus pendant des décennies encore. Comprendre pourquoi qu'après 4 ans de Trump, il y en a qui ont décidé qu'on allait essayer ça.
Fascinant.
Sans aucun contre-pouvoir.
Éric, on va te laisser aller à la plage, profiter de tes vacances. Merci d'être sorti pour nous jaser géopolitique aujourd'hui.
Merci, à une prochaine fois.
Salut, à la prochaine. Eh oui, faut-tu pareil, faut être passionné, là. Pour sortir de tes vacances en famille, venir jaser en radio de géopolitique, là. Éric Sauvé, président d'Inovigo, firme de consultation en renseignement, sécurité et défense. C'est toujours lui qui vient nous jaser quand il se passe quelque chose dans le monde. Et dans les prochaines minutes, on va accueillir Sam Tremblay-Michaud. En fait, je dis accueillir. Sam s'en va au Michigan. On va jaser de ça, évidemment, mais on va parler actualité automobile. Puis aujourd'hui, on s'était dit qu'on essaierait de répondre le plus possible à vos questions. Fait que c'est là. 88-971-1021, si vous avez des questions pour Sam Tremblay-Michaud, on vous avait mis aussi une publication là, sur Instagram pour aller proposer vos questions, mais on va l'avoir au téléphone. Il est comme en deux vols. Va s'isoler pour être capable de nous jaser.
Il y en a un qui est à la plage, il y en a un qui est à l'aéroport.
On a quand même des collaborateurs, l'été. Oui. Puis on a des collaborateurs dédiés, j'ai envie de dire. Fait que 88-971-1021 pour vos questions auto. On revient avec Sam dans quelques instants.
Le retour